Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ce matin, la voix va un petit peu fatiguée, mais on va faire avec et compter sur la grâce du Seigneur. Donc on va introduire ces moments par la prière. Seigneur Jésus, on a besoin de toi au-delà de même tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons imaginer. Et nous venons devant toi en tant que pécheurs, nous venons devant toi nus, dépouillé, comme le demande ta parole, pour que ta puissance et ton esprit puissent nous revêtir. Revêtir ce qui fait notre honte, notre nature de pécheur. Cette nature que tu vas bientôt complètement chambouler, transformer, glorifier. Et c'est notre espérance. Seigneur, que tout ce qui est dit ce matin puisse contribuer à élever nos pensées vers toi. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Nous allons parler de l'épître de paille. Savez-vous quelle épître a été qualifiée par Luther d'épître de paille? Voilà, c'est l'épître de Jacques. Et pourquoi Luther était troublé? Parce que cette épître nous parle beaucoup des œuvres, les œuvres pratiques et concrètes du chrétien. Et évidemment, la réforme au XVIe siècle mettait beaucoup l'accent sur la foi, la grâce. Et donc, pour Luther, il y avait comme une dissonance à mettre en avant le salut par la foi seule, là où Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Et pourtant, quand on creuse bien, et je le ferai par la suite, nous verrons que le message de la grâce et de la foi, en particulier celui de Paul, et le message des œuvres de la foi, celui de Jacques, en fait, sont parfaitement en accord l'un avec l'autre. Simplement, Jacques et Paul sont deux personnalités très différentes. Et alors, c'est bien que tout à l'heure, il était lu au départ la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, parce que je voulais commencer par ça. C'est Pierre qui reconnaît que Paul dit des choses difficiles à comprendre et les personnes mal affermies en tordent le sens pour leur propre ruine. Donc Paul avait une pensée complexe, subtile, et j'y reviendrai à la fin, là où Jacques est extrêmement pratique. Vous voyez? Donc il y a de la place dans le royaume de Dieu pour des actions extrêmement concrètes, mais également des réflexions très sophistiquées. Il y a la place pour tout le monde. Et donc plutôt que de mettre Paul et Jacques en opposition, j'ai tâché au contraire d'harmoniser les deux au long de ce message ou de cette série de messages. Et heureusement, on peut remercier le Seigneur de ce qu'il sache gérer les différences de caractère, de personnalité. Voilà, il s'en accommode très bien. Dieu aime la diversité. Et nous, souvent, on veut tout mettre dans la même boîte parce qu'on pense que c'est plus simple à gérer. Et par là, évidemment, on fait fuir l'esprit. Donc, ne craignons pas la diversité et les différences. Donc, pour aujourd'hui, et comme je l'ai dit, je reviendrai sur cette question donc à la fin, Paul versus Jacques. Pour aujourd'hui, on va considérer les 8 premiers versets de l'épître de Jacques au chapitre 1. Et comme à l'habitude, ça sera une traduction plutôt littérale, directement à partir de la version araméenne. Donc, lisons. Jacques, serviteur ou esclave, c'est le même mot, serviteur de Dieu et de notre maître Jésus le Messie, aux 12 tribus semées parmi les nations. Paix. Donc que la paix soit avec vous. Paix. Que toute joie profonde soit à vous, mes frères. Lorsque vous entrez dans des épreuves, c'est le même mot que les tentations. Épreuves variées et nombreuses, reconnaissant que le test de votre foi vous acquiert la patience ou l'endurance, c'est le même mot, la patience ou l'endurance, mais que cette patience produise son œuvre mûre afin que vous soyez mûrs et complets et qu'il n'y ait en vous aucun manque. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. mais qu'il demande avec foi et sans division intérieure. En grec, il est dit sans une âme divisée. Car celui qui est divisé intérieurement est semblable aux vagues de la mer que le vent agite. Et que cet homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose de Yahweh, là nous avons le nom de Dieu, il est divisé dans sa pensée et agité dans toutes ses voies. Divisé dans la pensée veut dire agité dans toutes ses voies. Donc voilà le texte pour ce matin. Et j'en ai rempli 10 pages. Donc il m'a fallu surligner en jaune l'important et rayer tout le reste. Donc on va essayer de rester dans les 40 minutes. D'abord, la première chose, qui est Jacques? Jacques est appelé Jacques le Juste et c'est le demi-frère de Jésus. Il est fils de Marie et de Joseph, comme également Joseph, Simon et Jude. Donc Jésus avait 4 demi-frères nés de Marie et de Joseph. Mais Jésus lui-même est né de Marie, mais par l'action de l'Esprit-Saint. C'est pour ça que je dis bien demi-frères. Mais ce sont des demi-frères de sang par la mère, par Marie. Ça c'est le premier point pour situer qui il est. Et c'est intéressant parce que il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 7, si vous vous souvenez, que quand Jésus exerçait son ministère, ses frères ne croyaient pas en lui. Et Jacques faisait partie de ceux qui étaient incrédules à l'égard de l'œuvre de celui qu'il croyait être son frère, qui était en fait le demi-frère. Et qu'est-ce qui a changé dans la vie de Jacques? Eh bien, c'est qu'après la résurrection, c'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, Jésus est apparu à Jacques. Et c'est ça qui va bouleverser la vie de Jacques. Son frère, qui est en fait le Messie, ressuscite et lui parle directement. Ce qui montre que Dieu avait également pour Jacques un destin, et le destin était de devenir avec Pierre et Jean des piliers de la première Église. Pierre, Jacques et Jean sont nommés ensemble comme étant les piliers de l'Église. C'est ce qui est dit dans Galates 2. On le voit également dans le livre des Actes, chapitre 12, et en particulier au chapitre 15, lorsqu'a lieu cette grande controverse à Jérusalem pour savoir est-ce qu'il fallait circoncire les Grecs pour les faire entrer dans la nouvelle alliance. Et là, Jacques va avoir un rôle important d'autorité dans l'Église de Jérusalem. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais voilà, c'est pour situer un peu qui est ce Jacques qui nous parle par son épître. Et il nous parle de manière particulière parce que Jacques nous écrit une épître qui est typiquement juive. Il est à la tête, avec Pierre et Jean, d'une église juive messianique, c'est ce qu'on dirait en langage moderne. L'église primitive, elle est sortie du judaïsme. Et donc Jacques est tout pétri de sa culture et de sa mentalité juive. Et c'est pour cela qu'il nous présente une épître extrêmement pratique. C'est très intéressant de voir qu'il en est de même des épîtres de Pierre. Les épîtres de Pierre sont très pratiques. Et je commencerai également à faire des comparaisons entre Jacques et Pierre. Épîtres très pratiques. L'hébreu comme l'araméen sont des langues extrêmement concrètes. Vous n'avez pas de philosophie en hébreu. Ça n'existe pas. Et en araméen non plus. À une exception près, ceux qui vivaient à la frontière entre la zone araméophone qui parlait araméen et ceux qui parlaient le grec, ce qui est le cas de l'apôtre Paul. C'est pour ça que Paul, c'est un peu ce que tu as dit au départ Abdel, il va expérimenter des choses, mais il va les formuler avec un vocabulaire et des concepts qui vont aller au-delà de la pensée simplement sémitique et juive. Et c'est ça qui peut créer un peu une dissonance apparente entre Jacques et Paul. Mais évidemment, sur le fond, il n'en est rien, puisque les deux parlent de leur expérience de vie avec le Messie. Et je suis sûr que si on demandait à l'un et à l'autre de parler de leur expérience avec Jésus, eh bien, il y aurait des mots différents du langage différent, des concepts différents, mais ça nous ramène toujours à la même réalité, c'est notre marche avec le Seigneur. À nouveau, la diversité. Il ne faut pas avoir peur de la diversité, mais il faut apprendre à écouter l'autre dans la manière dont il ou elle relate sa marche avec le Seigneur. Et combien de divisions, souvent, viennent simplement de là. Ah oui, mais tu as fait telle expérience, mais c'est pas comme mon expérience. Donc, comme mon expérience, c'est la bonne, je mets en doute de ce que tu as vécu avec le Seigneur, parce que c'est pas comme moi. Alors, on raisonne souvent comme ça. Et le diable, évidemment, il rigole. Ensuite, la lettre de Jacques commence par quelque chose qui m'a surpris. Enfin, m'a surpris, je connais l'épître de Jacques depuis longtemps, mais... Et là, il est dit que Jacques s'adresse aux 12 tribus semées par nation. Les 12 tribus. Alors, vous avez tous entendu parler, hop, je vais là, du mythe des 12 tribus perdues. Il faut savoir que ça, c'est une mythologie qui vient du Moyen-Âge, qui vient du milieu du judaïsme, avec cette idée qu'à la fin des temps, Dieu va rassembler, va tirer des nations, les tribus perdues, et les ramener en Israël. Je ne sais pas si Dieu le fera ou pas, mais bibliquement, il n'y a pas de base pour cela. Pourquoi ? Parce que les 12 tribus existaient au temps de Jacques. Et ça, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Donc pareil, je vais aller très très vite. Mais vous savez que quand le royaume de Salomon a été divisé en deux, avec les 10 tribus du nord et les 2 tribus, Juda et Benjamin, au sud, il est dit dans 2 Chroniques, je ne vais pas vous lire les passages, mais que 2 Chroniques 11, 15 et 30, que ceux qui dans le royaume du nord, qui versaient vers l'idolâtrie, ceux dans le royaume du nord qui étaient fidèles à Yahweh, à Dieu, sont descendus dans le sud pour continuer à servir le Dieu vivant et vrai. Ce qui fait que des représentants des tribus du nord sont descendus dans le sud. Et c'est comme ça que les 12 tribus ont survécu, puisqu'au 8e siècle de notre ère, lorsque les Assyriens sont venus et ont détruit le royaume du nord, les Israélites ont été dispersés et ont été mélangés avec les nations. Mais les tribus, des représentants des tribus, ont continué à exister dans le sud. Pouvez-vous me nommer dans le Nouveau Testament des tribus parmi les 12 dont on retrouve le nom dans le Nouveau Testament? Alors, il y en a, c'est facile. Jésus est descendant de Judas. Ensuite, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était de quelle tribu? C'était un Lévite. Très bien. Ensuite, Paul. Il était de quelle tribu? C'est un Benjaminite. Et enfin, plus compliqué, Anne, celle qui priait quand Jésus est né. De quelle tribu était-elle? Aser, donc c'est une Assyrite. Vous voyez, il y a au moins 4 tribus qui sont mentionnées. Judas et Benjamin, parce que c'est le royaume du sud, mais également les Lévites, qui étaient distribués sur l'ensemble, et Aser. Il y a 2 autres tribus que Jésus nomme en faisant allusion à une prophétie de l'Ancien Testament. Les tribus du nord, 2 tribus du nord, qui ont vu une grande lumière alors qu'elles étaient dans les ténèbres. Zébulon et Nephtali. Vous voyez que les noms n'étaient pas perdus, et donc ils savaient que les habitants du nord donc, étaient descendants de ces 2 tribus-là. Voilà, en fait, quand Jacques écrit aux 12 tribus semées, en fait, dans le bassin méditerranéen et en Orient, voilà, il y avait des restes et des représentants de toutes ces tribus, ce qui souligne de la part de Jacques un souci pastoral. À nouveau, il est à la tête d'une église juive messianique à Jérusalem, mais il a le souci de tous ceux qui sont dispersés parmi les nations. Donc c'est comme ça qu'il commence son épître. C'est important de savoir à quelle personne est-ce que l'auteur s'adresse. Mais évidemment, ça s'adresse à nous également, puisque le schisme après la mort de Salomon est également une image de l'Église. Puisque les 10 tribus du Nord dispersées parmi les nations deviennent symboliquement les représentants du peuple de Dieu parmi les nations. C'est-à-dire nous. alors que les deux tribus du sud, Juda et Benjamin, deviennent les représentants de la composante juive de l'Église. Or, on voit dans la Nouvelle Alliance qu'il y a toujours deux composantes dans l'Église, la composante juive, la composante des nations, les deux, comme dit Paul dans Éphésiens 2, unis dans le Messie. Et vous avez les mêmes images, évidemment, avec l'olivier dans Romains 11, les branches de l'olivier naturel et les branches de l'olivier sauvage qui forment un seul arbre. Ou alors, dans Apocalypse 7, les 144 000 issus des 12 tribus, on retrouve l'allusion aux 12 tribus, et la grande foule issue des nations. Vous voyez, toujours cette dualité et cette complémentarité. Et on retrouve en particulier dans le livre d'Ézéchiel cette allusion que le temps vient justement où toutes les tribus vont être réunies. Vous trouvez ça dans Ézéchiel 37. Donc je le lis celui-là parce qu'il est court. Fils de l'homme, Ben Adam en hébreu, fils d'Adam, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda. Puis prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm. Éphraïm était dans le nord la tribu la plus nombreuse. Et donc Éphraïm devenait le nom pour les tribus du nord. Et ensuite, Dieu dit à Ézéchiel, rapproche-les, les deux bois qui portent le nom de Juda et le nom d'Éphraïm, rapproche-les l'une de l'autre et elles formeront une seule pièce de bois. C'est une allusion et une prophétie sur la Nouvelle Alliance. Et on a évidemment cette image dans Éphésiens 2. Des deux, Dieu en a fait un seul. C'est la même idée. Voilà, je pourrais développer ça, mais je n'irai pas plus loin. Donc, nous faisons également spirituellement partie de ces 12 tribus, c'est-à-dire de l'Israël de Dieu. Hein, c'est ce que dit Paul dans Galates 6. Donc il parle de l'Israël de Dieu. C'est tous ceux qui, juifs et nations, ont le cœur circoncis en le Messie. Voilà, tout ça juste pour situer un peu le contexte. Ce qui est étonnant encore, je garde le texte visible, voilà. Ce qui est étonnant encore, après ces paroles de salutation, il commence d'emblée que toute joie profonde soit pour vous, mes frères, lorsque vous entrez dans des épreuves. Pas d'introduction, pas de... D'emblée, hop, il parle des épreuves. Et pourquoi parle-t-il des épreuves? Parce qu'il parle justement à des juifs messianiques qui croient en Jésus. Et quels étaient les problèmes que rencontraient ces juifs-là qui mettaient leur foi et leur confiance en Jésus? Quels étaient leurs adversaires? Les juifs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui refusaient le messianisme de Jésus. Et vous savez qu'à l'époque, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, si quelqu'un met sa foi en Jésus, il est exclu de la synagogue, de la communauté, mis hors d'Israël. Et voilà à qui est-ce que Jacques s'adresse. Donc non seulement il pouvait y avoir des difficultés avec les Romains, qui vont devenir croissantes, puisqu'il va y avoir une guerre entre les Romains et le royaume de Judée, donc en l'an qui va mener à la destruction de Jérusalem et du Temple en l'an 70 de notre ère, mais il y avait surtout les difficultés avec ceux qui refusaient le messianisme de Jésus, et ils se retrouvaient, comme je l'ai dit, mis au rang de la communauté. Et c'est à cela que Jacques va dire, considérez cela, ces épreuves, ces difficultés, comme une source de joie profonde. Alors c'est intéressant parce que Pierre va dire exactement la même chose dans 1 Pierre 4, versets 12 et 13, où il dit, mais ne soyez pas étonnés, ne trouvez pas étrange de vous retrouver dans la fournaise de l'épreuve, mais au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Messie. Jésus a été rejeté par les religieux de son temps, et là, de la même manière, ces Juifs qui mettaient leur foi en Jésus étaient bannis de la communauté juive. Vous voyez? Et là, il leur dit, soyez heureux. Soyez heureux. Jésus ne dit pas autre chose dans son sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. L'épreuve, la joie. Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Quand on subit une contrariété, quand on subit une adversité, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que nous avons trouvé le chemin de la joie profonde? On vient de le chanter, hein? On vient de le chanter. Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Ou alors, est-ce qu'on en est encore à, comme Paul avant sa conversion, à regimber contre les aiguillons, parce que Dieu nous picote un peu, hein, comme les gardiens des vaches qui piquent les vaches aux fesses. Je l'ai vu, hein, j'ai grandi dans la campagne. Voilà, est-ce qu'on est encore comme, voilà, à essayer d'éviter d'être piqué, ou alors est-ce que, voilà, nous savons trouver une joie dans l'épreuve. Ça, c'est la première chose. C'est la première leçon que nous donne Jacques au travers de cette épître de paille que Luther considérait comme, il envisageait même, hein, de l'arracher, de la sortir de la Bible. Hein. Vous voyez? Ça, c'est la première chose, c'est cette contradiction entre une joie profonde intérieure et des épreuves. Et Jacques dit, ça doit devenir un sujet de joie. Mais pourquoi? Parce qu'on est masochiste? Parce qu'on aime bien la souffrance? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que, il est dit, que l'épreuve de la foi produit la patience. Étymologiquement, la patience, c'est la capacité à supporter la souffrance. Quand on parle de la passion du Messie, la passion, c'est la souffrance. La capacité, donc, la patience, c'est un peu la même chose que l'endurance, la capacité de porter cette souffrance. Donc, c'est un sujet de joie parce que dans l'épreuve, avec l'aide du Seigneur, vous trouverez la patience, l'endurance, la capacité à supporter. C'est la première raison pour laquelle Jacques dit que nous devons trouver la joie dans ces choses-là. Et le livre des Actes en particulier est rempli. Il y a plusieurs exemples de persécution de la part des Juifs contre des Juifs. C'est une division interne dont Jésus dit « Je suis venu amener non pas la paix, mais l'épée ». Ça a commencé au sein même de la communauté juive. Vous lirez ça dans Acte 7, Acte 8, Acte 14, Acte 17. Il y a des exemples comme ça de fortes dissensions entre Juifs et Juifs. Mais ça peut être la même chose parmi nous aussi, hein. Donc, c'est la première chose que Jacques mentionne. Alors, c'est intéressant parce que Jacques, il va directement de la foi à la patience. Et quand on compare avec Pierre, Pierre va également de la foi à la patience. Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, sauf qu'il rajoute des choses intermédiaires. Il dit qu'à la foi, il faut ajouter l'excellence. En araméen, c'est l'excellence. Ensuite, la connaissance, la fortitude, acquérir un caractère fort, et la patience. On va de la foi à l'excellence, à la connaissance, à la fortitude et à la patience. Vous voyez ? Donc, Pierre prend le temps de décortiquer le processus interne et le chemin qui va de cette foi vers la patience, là où Jacques saisit sans doute par le sentiment d'urgence à l'égard de ce que vivaient ces chrétiens, ces frères juifs messianiques, donc ces chrétiens dispersés dans le bassin. Là, il était dans l'urgence et il disait, bon, on va aller à l'essentiel, ce qui est important pour vous, c'est la patience, la capacité à endurer, et faites-en un sujet de joie. Donc Pierre développe un peu plus le processus intérieur, et là encore Jacques est très pratique, et dit, voilà ce à quoi vous devez parvenir. Donc il y a une forme d'urgence, comme il est dit, pastorale, dans l'écrit de Jacques. Il dit ensuite que cette patience-là, donc vous voyez qu'il y a quand même une chaîne, hein, on va de la foi vers la patience-endurance, et cette patience-endurance, ou endurante, doit produire une œuvre mûre. Souvent dans nos traductions, chaque fois que vous trouvez le mot « parfait », soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, si on commence à se regarder dans le miroir, on ne se trouve pas parfait. Et il y a un problème. Mais parce que ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Ça, c'est la pensée grecque. Le texte nous dit, soyez mûrs, soyez adultes, soyez... Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Le terme employé en araméen renvoie à la maturité. Devenez mûrs. Autrement dit, la foi qui endure l'épreuve nous permet de devenir adultes dans la foi et non plus comme des petits enfants ballottés à tout vent de doctrine. On devient mûr, on devient adulte. C'est ce qu'il dit à la brique, le processus. Hein. La foi permet d'endurer des épreuves qui nous rendent mûrs. Donc la patience doit produire une œuvre mûre afin que vous soyez mûrs et complets sans aucun manque. Voilà ce que dit Jacques. La maturité, on ne peut pas y passer, ça prend du temps et ça prend des expériences de vie. On ne peut pas y échapper. Et on ne peut pas compenser la maturité par la connaissance. La connaissance livresque, celle qu'on accumule à partir de livres, ne peut pas remplacer l'expérience qui donne la maturité. C'est là encore ce qu'a dit Abdel tout à l'heure. Quand on a la maturité et l'expérience, on trouve les mots, chacun avec sa culture, on trouve les mots pour l'exprimer. Mais la connaissance ne peut pas remplacer l'expérience, l'endurance, la patience et les épreuves. Et c'est pour ça que Dieu permet les épreuves. Hein, souvent on se demande, mais voilà, si Dieu est amour, pourquoi ceci? Pourquoi m'est-il arrivé cela? Voilà, non. Dieu permet les épreuves et il faut comprendre que les épreuves que Dieu permet, c'est pour nous rendre mûrs, pour faire de nous un peu comme Pierre, Jacques et Jean, des piliers solides qui ne bougent pas quand le vent de la tempête souffle. Là encore, qu'est-ce qu'il en est pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on est vite affolé, secoué, déraciné peut-être? Est-ce que la maison est bâtie sur quoi? Sur du rocher ou sur du sable? C'est une manière de tester également sur quoi nous sommes bâtis, les épreuves et les tourmentes. Pour tester le sol sur lequel on est bâti. Donc il ne faut pas avoir peur des épreuves. Mais c'est facile à dire. C'est très facile à dire. Il y a des frères et sœurs ici qui vivent des choses difficiles, qui viennent d'arrière-plan difficile. Voilà. Donc ils ont une petite idée de ce que ça veut dire une épreuve. Il faut surmonter. L'épreuve de la foi donne la patience, la capacité à endurance, à endurer, qui produit une œuvre de maturité en nous. Ça, c'est la première pensée de Jacques. Et il en a une deuxième. Parce que là encore, c'est important de voir la correspondance entre les mots. Afin qu'il n'y ait en vous aucun manque. Enfin, on se dit, super, on est adulte, on est mûr, il ne manque rien. Mais juste après, si l'un de vous manque de sagesse. Et je me suis demandé, mais que vient faire la sagesse là? Je suis censé être capable d'endurer, avoir une foi qui est mûre, je suis complet. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il nous parle maintenant de sagesse? Parce qu'il y a un problème, il y a un danger. Sinon, il ne le dirait pas. D'abord, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, ce n'est pas la connaissance. La sagesse est une connaissance pratique. C'est une connaissance situationnelle. C'est-à-dire de savoir dans telle ou telle circonstance que va nous dicter le discernement, le bon sens, pour savoir comment agir. Vous savez que dans l'Antiquité, c'était vrai également chez les Grecs et également chez les Sémites. Lorsque vous preniez quelqu'un pour maître, maître d'enseignement, il y avait évidemment une partie d'enseignement oral, mais surtout, l'élève habitait chez le maître pour voir comment le maître vivait de manière pratique et avoir un exemple de vie. Et c'est ça la sagesse. C'est l'exemple de vie qui est donné par quelqu'un qui a connu des épreuves, qui a acquis la patience et l'endurance jusqu'à être mûr et devenir un exemple de vie. C'est ça la sagesse. La sagesse dans la parole est extrêmement pratique. Les Grecs cherchent la sagesse, dit Paul dans Corinthiens. La parole aussi. Dans Proverbes 2, verset 6, l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Là encore, faut pas opposer les deux. Une expérience et une sagesse de vie est ensuite transmise par le maître à son disciple, qui a à la fois la formulation et le témoignage. Il faut les deux. Dans Proverbe 3, verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. L'intelligence pour pouvoir formuler des leçons de vie. Et tout le livre des Proverbes n'est qu'un enchaînement de leçons de vie. Donc le livre des Proverbes est l'exemple même de ce qu'est la sagesse selon Dieu, avec à chaque fois des situations. Fuis la femme adultère, écoute la voix de ton père. Voilà, tout un tas de préceptes extrêmement pratiques qui résultent de l'expérience. Et c'est ça qui est transmis de génération en génération. Alors, je pense, je n'avais pas marqué, mais je pense en particulier dans les cultures africaines et les cultures orientales, la tradition, ce qui est transmis d'une génération à l'autre, est un résumé de l'expérience des générations précédentes. Est-ce que c'est un peu ça? Voilà, c'est ça la sagesse. On vit quelque chose et on le transmet à la génération suivante comme expérience de vie. Ça peut être des choses extrêmement concrètes, ou alors des choses concernant le groupe, la famille. Voilà, on sait que ça s'est éprouvé, ça marche et ça stabilise. On le transmet comme un trésor. C'est ça la sagesse. Donc c'est une sagesse qui est pratique. Mais alors, si j'ai connu l'épreuve, la patience et que je suis devenu mûr, est-ce que je pourrais manquer de sagesse? Et c'est ça que Jacques est en train de souligner comme question. Serait-il possible d'avoir enduré, d'avoir mûri et néanmoins manquer de sagesse? Je pense que la réponse est oui, parce que sinon Jacques ne l'aurait pas mentionné. En particulier, il y a un danger quand on a vécu des choses difficiles et des épreuves, on en ressort effectivement plus fort, mais est-ce plus fort en nous-mêmes ou plus fort dans le Seigneur? Parce que ça peut également endurcir notre caractère. T'as vu ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré? Toi, avec tes problèmes, si j'y suis arrivé, tu peux le faire aussi. Prenez ça dans la figure. Vous êtes dans la souffrance, vous le partagez à quelqu'un et il vous dit, moi, je suis passé au travers, donc tu dois y arriver aussi. Waouh, quelle aide! La personne, elle a mûri, elle a enduré, elle a été capable de porter beaucoup de choses, mais elle n'est pas capable de le transmettre. Et la parole devient dure, devient un fardeau que l'on met sur l'autre. J'ai traversé des tempêtes, je sais ce que c'est. Donc, si tu souffres, débrouille-toi. Moi, j'y suis arrivé, tu dois y arriver aussi. Waouh! Quel exemple de sagesse. Vous voyez? Et ça, on trouve des exemples dans la Bible. Regardez les compagnons de Job. Ah, ils étaient d'un grand conseil, il y a les trois. Le pauvre Job, il était dans l'épreuve, vraiment une épreuve majeure, dans son corps, dans sa famille, dans ses biens. Et regardons les conseils des trois compagnons, des trois amis, et je mets des guillemets, de Job. Voilà, ils ont rajouté une couche l'un après l'autre. Hein. Et pourtant, ils étaient censés parler d'expérience, sauf que leur expérience, c'était si tu n'es pas béni, c'est que Dieu te punit. Voilà, ça se résumait à ça, leur logique. Voilà, et le pauvre Job, il était là, mais qu'est-ce que j'ai bien fait au bon Dieu? J'ai tout fait bien selon ma connaissance, selon ce qui m'avait été révélé. Je ne comprends pas. Non, 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 non. S'il t'arrive cela, c'est que Dieu te punit. Il y a une injustice en toi. Et Job ne le voyait pas. Ça ne l'a pas aidé. Il y a un autre exemple célèbre de ça. Hein, c'est Jonas. Il est quand même passé par le ventre du cachalot. Hein? Dieu voulait l'envoyer à Ninive, il est parti à Tarsis, ça veut dire en Espagne. Il a fini au fond d'un ventre de cachalot pendant 3 jours et 3 nuits. Il ressort de ça, donc on peut dire qu'il a connu l'épreuve. Mais dès qu'il débarque à Ninive, « Oh Seigneur, détruis la ville !» Il n'avait pas encore compris la sagesse, hein, et il voulait détruire la ville. Voilà. Moi j'ai subi, j'ai souffert, alors toi tu dois souffrir aussi. « Oh Seigneur, détruis la ville, détruis Ninive !» On peut donner encore deux autres exemples, c'est pour rendre les choses concrètes. Les deux fils de Zébédée, lorsqu'ils sont mal reçus par les Samaritains, qu'est-ce qu'ils demandent à Jésus? Qu'est-ce qu'ils disent? Fais tomber le feu du ciel! Waouh! Ils ont subi l'opposition avec Jésus, ils ont eu le maître de sagesse par excellence qui les enseignait, et la première chose qui leur vient en tête, c'est de faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains qui les avaient mal reçus. Alors imaginez que ça ait eu lieu. Ça ruinait tout le témoignage ensuite de l'évangile à l'égard des Samaritains. Jésus dit non, laisse. On va ailleurs. C'est pas grave. On va ailleurs. Ça, c'est la sagesse de Jésus. Et le dernier exemple que je cite, c'est Pierre, avant la Pentecôte. Parce que lui, il avait un caractère trempé. Je l'ai déjà dit, hein, c'est pas pour rien que Jésus l'a surnommé Képhas. En araméen, Képhas, c'est la pierre. D'accord? C'est pour ça que ça dit. Mais surnommer quelqu'un Képhas, alors que son prénom c'est original, c'est Simon Képhas, c'est lui dire, comment dire, en araméen ça veut dire tu es un peu lourd. C'est ça que ça veut dire. Le surnom Képhas, ça veut dire tu es un peu lourd. Donc avant la Pentecôte, voilà, dans le jardin de Gethsémané, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée et il a tranché une oreille. Après la Pentecôte, c'est celui qui le premier va prendre la parole pour annoncer l'évangile. Donc ce caractère fougueux, Dieu va l'utiliser. Mais entre-temps, Pierre a été humilié 3 fois, en reniant 3 fois le Seigneur. Il a fallu qu'il soit brisé avant qu'ensuite l'Esprit puisse parler avec puissance au travers de lui. Mais voilà, on avait un exemple. 3 ans et demi avec le maître, et Pierre n'avait pas encore connu la sagesse. Prenez l'épée, fougueux, et voilà, ça c'est Pierre. Donc la sagesse enseigne la sensibilité à l'autre. La sagesse s'accompagne de maturité, elle est adaptée aux situations de l'autre, elle sait comment bien réagir, et elle est équilibrée. La sagesse, c'est ce qui va équilibrer la maturité et l'expérience. De telle manière à arrondir et à adoucir les relations les uns avec les autres. Souvent, quand on est jeune, on est plein de certitudes. Je recite mon sujet de bac, dont je me souviens encore aujourd'hui. La certitude est-elle le signe d'une pensée morte? Et souvent, c'est ce qui caractérise la jeunesse. Elle cherche des certitudes. C'est comme ça, comme ça. Et donc, il y a une forme de rigidité. Et le Seigneur, il va falloir qu'il travaille ça pour l'assouplir. Et pour aller de la connaissance à la sagesse. Il faut assouplir les choses. La jeunesse est l'âge où on cherche des certitudes. Souvent. Et souvent, on a besoin, voilà, d'être bien cadré. On cherche des certitudes. Et il va falloir mûrir par les épreuves, par l'expérience, pour sortir de cette rigidité-là et acquérir de la sagesse. La sagesse, c'est l'apanage des cheveux blancs. C'est une image classique que l'on emploie. Donc, il y a cette différence entre une jeunesse qui cherche des certitudes, mais qui, par là, peut réagir un peu comme Paul. Comme Pierre, pardon, et vous voyez, avec l'épée, parce que c'est comme ça. Et ça, j'ouvre une parenthèse, c'est le grand danger pour moi de tous ces jeunes qui vont faire des études de théologie. Je le dis, je l'ai déjà dit et je le répète, parce qu'ils se farcissent la tête de connaissances et de certitudes, et quand ils reviennent, ils tranchent avec l'épée de la parole. Il manque l'expérience de vie. Il manque la sagesse. Donc mettre, c'est pour ça qu'il est dit également dans la parole, mettre en position de responsabilité des personnes qui sont trop jeunes, pas en âge, mais en maturité et sagesse, ça peut faire des dégâts dans une église. Précisément à cause de ça. Il y a la connaissance, peut-être même quand on est jeune, il y a l'expérience, c'est le cas de Timothée. Timothée a accompagné Paul dans toutes ses missions, et bien qu'il soit jeune, il avait eu ce que coûtait l'évangile par son maître qui était Paul. Et il a grandi en maturité. Mais oserais-je dire, c'est l'exception plutôt que la règle. Hein? Pour être ancien, il est dit, il ne faut pas qu'il soit trop jeune. Il faut qu'il ait l'expérience de la parole. Donc là, c'est le cas. Sinon, on peut avoir, comme je l'ai dit, les épreuves, la maturité, mais manquer de cette sagesse, de ce recul par rapport à soi-même, pour mettre un peu de côté nos propres certitudes et apprendre avec le Seigneur à les assouplir. Voilà, et je vais terminer avec ça. Donc, le dernier point que je souligne, c'est que Jacques dit « Demandons la sagesse, mais demandons-la avec foi. » Et là, il va souligner quelque chose, c'est que l'obstacle à la foi, c'est une division interne. Alors, je ne vais pas faire de théologie très compliquée, mais simplement en tant que fils d'Adam et Ève, nous avons tous participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une division interne dans notre propre chair entre le bien et le mal, le vrai et le faux, la gauche et la droite, le noir et le blanc. Regardez les raisonnements de beaucoup de personnes dans les médias, etc. Souvent, c'est très polarisé. C'est très clivant, c'est très diviseur. Ça, c'est une âme qui est partagée en deux. Et c'est le fruit, la conséquence du fait que nos premiers parents ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, tant qu'on en est à vivre avec ce bien et ce mal, cette connaissance-là, cet arbre de la connaissance, et on a une grande difficulté avec la foi. En pratique, on raisonne beaucoup. En pratique, comme je l'ai dit, on est divisé, c'est-à-dire que on aime bien les choses binaires, c'est blanc ou c'est noir. On n'est pas capable de penser le gris entre les deux. Ou, comme je vais le montrer, la troisième voie en Jésus. Ça, c'est la preuve, c'est la marque d'une immaturité dans la foi, dans cette division interne. Et le verbe qui est employé en hébreu, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je l'ai traduit par division. Il y a une division interne qui produit de l'agitation interne. Alors, comment on dépasse ça? J'ai oublié de le mentionner, voilà, je l'ai cherché tout en vous parlant. Une des manifestations classiques du fait que quelqu'un mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est son légalisme, c'est son rationalisme, c'est de ramener tout à sa propre raison. Ça, c'est typique. C'est la raison qui résonne en termes binaires. Il y a le vrai, il y a le faux. Donc le légalisme est un des grands dangers de l'Église et quelque chose qui résulte de l'arbre de la connaissance. Et ça produit une division interne et cette division externe est visible extérieurement. Il y a eux, mais il y a nous. Nous, on est bien. L'Église à côté, il y a des choses qui ne vont pas, hein. Mais chez nous, tout va bien. Faisons attention à ça, parce que cette division extérieure traduit en fait une division intérieure. Alors, comment on dépasse cette division-là? Mais la foi, ça veut dire quoi? Et je le dis à chaque fois, c'est la confiance en Dieu et la fidélité envers Dieu. C'est pas simplement adhérer intellectuellement à un credo, comme on le pense souvent en Occident. C'est une relation vivante de confiance en Dieu et de fidélité à Dieu. C'est un état intérieur et c'est une action extérieure. Donc, ce qui permet de dépasser cette division interne qui est propre à chacun et liée à notre propre chair, c'est bien évidemment la relation vivante centrée sur Jésus, ce que j'appelle à chaque fois la troisième voie. Et Jésus est la source de sagesse véritable, c'est ce que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. En lui, il y a la sagesse, la justice et la sainteté. D'abord la sagesse. Jésus est celui qui nous libère et il est le fondement de nos propres vies. Autrement dit, c'est par lui qu'on peut ne plus être secoué. Parce que c'est ce que nous dit le texte là. Quand il y a division, on est secoué comme les vagues de l'océan, les vagues de la mer. Donc, ça nous ramène toujours à la même chose. Et heureusement d'ailleurs, l'évangile nous ramène toujours à Jésus. La parole, quel que soit le passage que l'on prend, nous ramène à Jésus, c'est-à-dire notre maître de sagesse. Et je termine donc en revenant au point de départ. J'ai dit que Jacques avait une pensée extrêmement pratique qui correspond bien à la mentalité d'un juif dans le moule du judaïsme et de sa propre culture, alors que Paul était à l'interface entre le monde juif et le monde grec. Et donc Paul ne va pas exprimer les choses de la même manière que Jacques, il va les exprimer de manière un peu plus complexe. Par exemple, il va dire « En Jésus se trouve le mouvement, l'être, la vie. » Trois choses. Je viens de dire que quand on est dans l'arbre de la connaissance, on résonne en binaire. C'est toujours le bien et le mal. Là, il dit non, non. En lui, nous trouvons la vie, le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être sont les deux branches de la philosophie grecque. Je ne vais pas développer ça. Héraclite et Parménide, le mouvement et l'être. Mais Jésus dit, non, 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 ça ne suffit pas. Vous avez bien ça, mais je vous annonce la vie. Le dépassement, la troisième voie à laquelle votre propre philosophie ne peut pas accéder. Mais je n'anéantis pas votre philosophie. J'amène quelque chose en plus. C'est la même chose aux Corinthiens quand il va dire « Les Juifs cherchent les miracles. » Thèse. « Les Grecs cherchent la sagesse. » Antithèse. « Mais moi, je vous prêche Jésus crucifié. » À la fois puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il n'en reste pas à la division entre les Juifs et les Grecs. Il dit non, je vais vous présenter Jésus qui va intégrer et aller au-delà de cette division naturelle entre le monde grec et le monde juif. Je vous présente Jésus qui est à la fois puissance de Dieu, donc qui parle aux Juifs, mais également sagesse de Dieu, ce qui va parler aux Grecs. Le raisonnement de Paul est ternaire. Toujours. En fait, c'est le secret pour comprendre les idées de Paul. C'est qu'il résonne toujours en thèse, antithèse, troisième voie. Quand on l'a intégré, ça devient lumineux. Mais c'est pour ça que Pierre dit à nouveau, Paul écrit des choses difficiles à comprendre, dont ceux qui sont mal affermis tordent le sens pour leur propre ruine. Et je pourrais donner des exemples dans la théologie de Paul qui sont des sujets de division entre églises. Je ne mentionne qu'un seul, entre l'articulation entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Et si vous mettez l'accent sur l'un ou sur l'autre, vous tombez sur deux systèmes théologiques qui se regardent en chien de faïence, le calvinisme, l'arminianisme. Donc la question qui est posée et à laquelle je ne répondrai pas, c'est y a-t-il moyen d'articuler les deux avec une formulation à la Paul centrée sur Jésus pour intégrer et dépasser ces oppositions binaires qui ne font que diviser les églises entre elles. Voilà, je termine avec cette pensée-là. Donc retenons cela, Jacques a une pensée pratique, mais ne l'opposons pas à la pensée de Paul, parce que c'était la motivation de Luther au départ. J'articule pas ce que dit Jacques avec Paul. Paul, c'est lumineux. Je me suis converti par l'épître aux Romains. Donc Jacques, épître de paille, je la mets de côté. Voilà, ne faisons pas. Dieu nous a donné l'épître de Jacques et les épîtres de Paul, il y a une raison. C'est d'abord peut-être pour révéler nos propres limites dans la compréhension de toutes ces choses-là. Mais c'est aussi pour nous amener, par exemple avec Jacques, à mettre la parole en pratique, comme le dit Jésus, et non pas simplement être un auditeur oublieux, comme le dit Pierre. Vous voyez qu'à partir de là, tout s'harmonise. Voilà, j'en arrête avec ce texte pour aujourd'hui.